Gravel et Annick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Midi pile poil, Denis Gravel qui est en studio. Salut, Denis.
Hello.
Hey, on salue toutes les hockey moms et les hockey dads qui avaient des tournois en fin de semaine. Moi, j'étais dans le secteur de Saint-Jérôme. Toi, t'avais-tu un tournoi en fin de semaine aussi?
On avait un match dans le coin de Clermont. Puis je te confirme que dans le coin de la Malbaie, Baie-Saint-Paul, l'hiver est pogné solide. Wow. Là, impressionnant. Il y a un pied de neige sur les arbres. Ils ont de l'avance sur nous autres, moi, t'as le dire.
Ça fait quoi, 1h30 de voiture à peu près?
1h45, top chrono.
Ah, tu roules en bonhomme?
Oui, oui. Avec mes enfants dans le char, j'ai pas de gêne à te dire que je roule en bonhomme.
C'est 1h38 en suivant les lignes de vitesse.
Ah, en partant de site. Ouais. Moi, je pars pas de site. Je pars de Charlebourg.
Ah, voilà.
La nuance est là.
La nuance est là. Mais quelle histoire, mon fin de semaine. J'en jasais tantôt avec Audrey. Mon gars était à son premier tournoi avec sa nouvelle équipe de cette année.
Ouais.
Puis, contre toute attente, se sont rendus en finale.
Très cool.
Puis, sérieusement, ils ont vraiment bien joué. Et on était tous bien fiers. Puis hier, je pouvais pas être là. C'était la mère des gars qui était avec mon plus vieux. Moi, j'étais avec mon plus jeune au Centre Castel à Sainte-Marie pour une game pratique, en fait. Et quand j'y ai vu la face, parce que je savais qu'il avait pas gagné, quand j'y ai vu la face donner, la mine un peu débitée, il regardait à terre, il était pas content, il avait sa médaille de participation dans le coup, là. Il était fâché. J'étais content qu'il soit fâché.
Ouais.
J'étais content. Tu sais, on disait à nos enfants, ouais, mais l'important, c'est de s'amuser et tout ça. J'ai pas l'impression que quand on leur dit ça, c'est correct, mais j'ai pas l'impression qu'on les prépare à leur vie d'adulte où il y en aura de la compétition.
Il y a tellement de belles leçons à retenir et à apprendre dans le sport, puis ça marche plus qu'ailleurs parce que nos enfants, ils aiment ça, le sport. Puis je veux pas nécessairement centrer ça sur les petits gars. Moi, j'ai deux petits gars, je peux pas parler des petites filles, mais mes deux petits gars, le sport, ils prennent ça à cœur. Puis essayer de leur apprendre quelque chose par rapport à l'école ou à une note scolaire ou à quelque chose qui s'est passé à l'école, ça reste pour eux autres quelque chose qui les prend pas au trip. Mais tu sais, la victoire, la défaite, comment agir en leader, exact. Comment réagir en capitaine. Tu sais, mon gars, c'est le capitaine de son équipe cette année. Je suis assez fier, puis il est fier aussi, puis... Il y a comme plein de choses à apprendre puis à retenir là-dedans. Puis nous autres, les Gravels, on n'est pas des gens qui sourient beaucoup, là. Mais mon grand, quand tu joues au hockey, il y a un grand sourire d'en face. Je le vois à travers son casque. T'sais. Ça, ça n'a pas de prix.
Ouais, c'est le fun de les voir évoluer. Puis, tu sais, là, ils ont perdu. Fait que, tu sais, mon gars, il était bien triste hier. Puis, je pense que le réflexe d'un père, c'est d'être un peu triste pour son enfant. Mais moi, j'étais content qu'il soit fâché d'avoir perdu.
Ça a-tu broyé dans la chambre?
Je ne sais pas si ça a broyé, mais ils m'ont envoyé les photos d'hier. Puis, c'est drôle, il y a un parent qui a dit il regarde tout à terre.
Ben oui.
Ben, c'est une bonne chose qu'il regarde à terre. Puis, la semaine prochaine, ils vont se dire on s'est au moins rendu en finale. T'sais, alors qu'au début de l'année, on ne savait pas si on avait un gros club. Ben, nous autres, on s'est rendu jusqu'en finale. Malheureusement, on a perdu. Puis là, il va y avoir d'autres tournois. Puis, ils vont se souvenir de la douleur de leur défaite.
Puis, d'envie.
Ils ne veulent pas souffrir.
D'envie, c'est des victoires, puis c'est des défaites, puis il faut apprendre à dealer avec les deux, tu sais. Il faut que l'émotion, elle sorte d'une façon ou d'une autre, puis il faut réussir à passer à travers. Puis les premières vraies défaites, souvent, c'est dans le sport que tu apprends le plus, je pense, à gérer tes émotions puis tes réactions pour les premières fois. Tu sais, mon gars pogné... Le match est 3-2 en faveur de l'équipe de mon gars. Il pogne une punition à 2 minutes de la fin du match. Il se pouvait pas. Il capotait. Il dit « Hey, j'ai laissé tomber mon équipe. » Puis je le voyais, là, il était émotif sur le banc des punitions. Puis, tout ça. Puis je disais « Tu sais, t'es le capitaine de ton équipe. Il reste 2 minutes. Et te voir en catastrophe, te désorganiser sur le banc des punitions, qu'est-ce qu'il pense? » Il pense que le capitaine n'a pas confiance en son équipe. Il dit « La punition était bonne, était pas bonne. L'arbitre, il a calé. T'es capitaine, t'acceptes ça. Tu t'en vas sur le banc, tu t'accotes sur le bord, t'encourages ton équipe, ils vont passer à travers. » Il y a plein de choses, le fun à jaser,
exact.
De par le sport. Puis, dans une... je trouve que... Puis, probablement que nos parents trouvaient ça aussi, mais tu sais, on est dans une société où sont sollicités, tu sais, le téléphone, les jeux vidéo, les tablettes, la TV, puis ainsi de suite. C'est dur de perdre le focus d'une conversation. Mais nous autres, nos conversations d'après-match dans le char, on l'a, tu sais, c'est rendu un point de rendez-vous, là. Puis, je fais exprès, j'attends de me le faire demander, tu sais. Puis, les notes d'après-match, puis là, on commence à jaser à 3. Parce que son plus jeune, son petit frère joue pas au hockey, mais il est impliqué, là, tu sais, il encourage son grand frère, prend ça à cœur, il a été assistant coach, il a été porteur de drapeau, fait qu'il participe à la conversation aussi, c'est des beaux moments. Tu sais, victoire, défaite, moi, je trouve que ça reste des beaux moments puis des beaux moments d'apprentissage.
Oui, puis c'est la même fois pour ce que des petites filles. Pascal, on a quelqu'un qui se promène tout nu sur le boulevard Charest actuellement.
Oui, puis si tu penses que Yannick fait une joke en ce moment en nous écoutant, c'est pas une farce. On a clairement quelqu'un qui a besoin d'aide.
Besoin de linge, en tout cas.
Besoin d'aide, de linge. Non.
Ben, d'abord du linge, après ça, de l'aide. Il est où, hein?
T'es tout aussi petit que ce qui doit être affiché du côté du boulevard Charest en ce moment. Il va vers le centre-ville, il est au coin de l'Angelier. Il y a
petit,
quelques minutes, oui. Il doit avoir froid, ce qu'on dit, entre autres parce qu'il y a la zigounette.
Il va et vient au centre-ville. Oui,
ouais. Okay. Sera à l'air. Fait que c'est vraiment nu. Il faut l'aider quelqu'un étant l'autre recommandation qu'on vient de nous donner par texto.
OK. Hey, Denis, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais juste pour t'illustrer à quel point le système de santé est géré par des maudits incompétents, parfois, on a carrément retiré l'agent de sécurité de l'urgence psychiatrique au CHUL. Les filles, ça se font battre, ils se font frapper, ils ont besoin d'un agent de sécurité qui arrive très rapidement parce que les gens qui soignent, les patients sont complètement en crise. Et là, on a dit, ouais, l'agent de sécurité qui était attitré uniquement pour ce qui est de l'urgence psychiatrique, on va l'enlever, mais on va laisser quand même d'autres agents de sécurité qui circulent à l'intérieur de l'hôpital pour sauver une job de quoi? 22$ de l'heure à peu près?
Hein? C'est dur de comprendre des décisions comme ça, alors que n'importe quelle personne qui est active dans le système de santé va te dire l'agressivité est en hausse, particulièrement pour les gens désorganisés, mais pour les gens organisés aussi. On a eu cette conversation là, il n'y a même pas 2 semaines, avec Élise Berger-Pelletier, urgentologue, qui nous le disait. Oui, il a fallu augmenter les effectifs de sécurité parce que c'est dangereux. Il y a des incidents violents, il y a des incidents agressifs à toutes les semaines. Une aile psychiatrique, c'est des gens qui ne sont même pas en maîtrise d'eux-mêmes. Ça prend souvent des interventions rapides. C'est quoi? C'est le code blanc.
Code blanc, ouais.
Les infirmières qui ont le cœur de travailler dans ces départements là, ça les rassure de savoir que quelqu'un est à une dizaine de pas d'intervenir si jamais ils en ont plein les bras. Tu sais, je comprends pas. Je ne comprends pas cette décision. Il y a un manque d'humanité dans cette décision.
Tu sais, nous autres, on est des contribuables, on ne sait pas toujours ce qui se passe à l'intérieur des murs des hôpitaux. Puis quand tu jases au personnel qui sont sur place, tu en apprends peut-être un peu plus. Tu sais, puis une fois de temps en temps, il y a des médias comme nous autres qui parlent de ça. Mais je suis en train de lire un article, un excellent article dans Le Soleil, soit dit en passant, où il parle des trois derniers jours de la dernière semaine. OK? Y a une infirmière qui a été mordue. En fait, c'est un préposé aux bénéficiaires qui a été mordu.
T'es.
Une infirmière qui a mangé un coup de poing dans la face. Une patiente mineure qui a été agrippée par un patient psychotique. Et à chaque fois, l'agent de sécurité a participé au code blanc pour un retour un peu plus rapide au calme.
Tu sais, si t'enlèves la personne parce qu'elle fait mal sa job puis que tu la remplaces par quelqu'un d'autre, je veux bien. Mais là, on parle plus d'une coupure pour des raisons d'économie. On peut économiser dans le système de santé, on va trouver des affaires. Mais
côté administratif,
ben,
c'est 22$ d'un
heure. Le niaisage, puis le temps que ça prend dans les fax, mettons qu'on met ça à une ère numérique, d'après moi, il y a une couple de salaires qu'on peut aller récolter là pour aller mettre ça dans la sécurité. J'ai tellement trouvé ça niaiseux que je me suis questionnée à savoir, c'est-tu par mesure de contention où on veut plus aller? Y a-tu, mettons, une réflexion sur hey, mesure de contention, moins le style en 2024, on veut plus trop ça, agent de sécurité, ça fait force.
Mais non, mais on n'a pas le choix. Mais, ils sont malades.
Écoute, j'ai tellement trouvé ça niaiseux que je me suis mise à me poser des questions différentes en me disant je peux pas croire qu'on a enlevé ces besoins nécessaires-là pour certifier, du moins aider les infirmiers et infirmières à exercer leur profession dans un endroit qui est plus sécuritaire.
Je vais me permettre un peu de démagogie. Ça arrive dans la même semaine. La même semaine où on enlève la job à un agent de sécurité qui est essentiel sur le plancher pour des travailleurs qui sont à risque au quotidien, c'est la même semaine où on a inventé une agence à grands coups de millions et de millions et de millions avec du monde très, très cher payé. Là, il rentre en fonction cette semaine, là, agence santé. Hein? Ça n'existait pas, là.
Avec la Top Gun.
On a pitché de l'argent là-dedans. T'sais, Top Gun, Tom, Tom Cruise, toute l'affaire.
On a pris les gens qui étaient déjà dans le système de santé avec un pouvoir décisionnel, on les a mis dans cette agence-là pour faire la même job et on a augmenté leur salaire.
Est-ce que les problèmes vont commencer à se régler comme par magie? J'en doute beaucoup. C'est pas la première fois qu'on invente une structure pour essayer de trouver des solutions. Ouais. Mais je trouve ça drôle, le clash entre les deux.
Imagine-toi, l'infirmière a dit les patients sont violents, ils mesurent parfois 6 pieds et plus. En plus, ils pèsent des fois 200 livres. Donc, nous autres, les petites infirmières, on fait pas toujours le poids pour les maîtriser, c'est parce que c'est pas leur job.
Puis t'as pas besoin d'être à 200 livres et tout. Quand quelqu'un a de la force, là, a de la peur ou un traumatisme, ça vient fort, ce monde-là. Là. Moi, Yannick, je pourrais être couché à terre. Admettons, complètement.
En quelles circonstances,
dans des circonstances où je suis complètement...
Je sais, mais non.
Je te jure.
Non.
Je vis une détresse, j'ai de l'adrénaline, je suis complètement
si tu mets Marceau à terre, effectivement, t'es tout ça. Là,
oui,
je veux dire, oui.
Tu vis une besoin détresse.
D'aide. T'as besoin d'aide.
T'as pas grand-chose à te mettre sous la dent.
Il y a des semaines plus difficiles que d'autres. Hein.
Fait qu'imagine-toi, les infirmières disent, parce que là, les patients qui sont psychotiques, qui sont en crise, pèsent des fois plus de 200 livres, ils montent au-delà du 6 pieds. Fait que pour nous, les petites infirmières, c'est un peu difficile de les contenir.
Mais on comprend. Ils n'ont pas besoin de nous expliquer ça à nous autres. Là.
Oui, mais tu te souviens-tu de Dr Pelletier, Élise, qui venait te voir une fois de temps en temps? Je me souviens d'une entrevue que tu avais faite, pas ici, mais ailleurs, où elle t'avait dit, quand j'étais en congé, quand j'étais enceinte, j'avais continué à l'urgence. Mm-hmm. À un moment donné, il y a un gars qui a un mauvais réflexe, il décide de donner un coup de pied dans le ventre.
Ouais.
Je me souviens
mauvais
de ça.
Réflexe,
ça m'a marqué, je me suis sacrément... Elle a le bon sens de dire on est dans le système de santé, je vais aller travailler même si je suis enceinte. Puis il y a un cave qui décide de donner un coup de pied dans le ventre.
Imagine à quel point c'est important d'avoir de la sécurité dans un contexte où déjà tu travailles dans un système de santé où il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui sont agressifs, il y a des gens qui sont en colère. Puis dans les dernières années, il y a des gestes agressifs, des gestes violents. Il y en a plus. Il y a eu une augmentation.
C'est spontané. Tu ne vas pas toujours venir. Là. Quelqu'un qui va réagir selon ce que tu viens de lui dire ou même quelque chose dans sa tête auquel il vient de penser, c'est pas toujours annoncé. Là.
C'est pour ça qu'il faut que ça arrive vite. C'est pour ça qu'ils ont besoin de renfort vite. Puis de savoir qu'il y a du renfort proche, ça change aussi ta façon d'intervenir. Ça change ta façon d'interagir, de savoir que... La seconde où ça vire mal, il y a quelqu'un qui est à 10 pas qui peut venir t'aider.
Pour les autres patients autour aussi, puis c'est un peu tannant que ces gens-là aient besoin d'aller parler de leurs problématiques dans les médias pour être peut-être écoutés. Je peux pas croire que ces gens-là n'ont pas tenté de parler à des supérieurs avant de se rendre dans le journal.
Écoute, on a dit qu'il y a des mesures qui ont été prises au CHU de Québec et au CIUS de la Capitale-Nationale, justement, pour essayer de réduire toute cette violence-là. D'abord, il y a une équipe d'éducateurs spécialisés qui ont été déployés afin de permettre une approche préventive. Et là, l'infirmière dit « Oui, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la sécurité. » Ensuite, le CIUS a bonifié le rôle de l'infirmier de liaison afin de réorienter plus d'usagers vers les meilleurs services pour répondre à leurs besoins. Mm-hmm. Et là, la dame dit « Bien, ça n'a rien à voir avec la sécurité non plus. » Le CHU a procédé à la mise en place de boutons de panique portatifs pour chaque intervenant du secteur. La formation et les protocoles d'intervention ont été renforcés. Et ce qu'on dit, c'est que, il y a des boutons, ça aide pas à maîtriser un patient violent.
Bien, le bouton panique, s'il y a personne proche, tu pèses tant que tu veux, il y a personne qui arrive, là, tu sais. C'est pas Batman, c'est pas le bat-signal, ça, là.
Ben, je serais jamais rassuré. Moi, une des raisons pourquoi j'irais pas en santé, c'est ça.
Attendez
aussi,
un peu, je vais peut-être vous rassurer avec celle-là. Le CHU a également lancé un plan d'action de sensibilisation auprès de la population concernant la violence envers les intervenants.
Ouais, ça, pour les gens psychotiques, je pense pas que ça aide beaucoup.
Mais avez-vous vu les pancartes? Ils en ont mis partout, presque, OK? Puis c'est le genre de pancarte qu'on voit, mettons, quand tu vas au McDo, que tu sois gentil avec nos agents ou que ce qu'on nous dit au téléphone. Mais ça, je m'excuse, mais c'est-tu moi qui vis dans un monde où j'arrive pas à croire que ça va changer la donne?
Et là, l'infirmière qui répond à ça, tu sais, le CHU qui a également lancé un plan d'action de sensibilisation auprès de la population concernant la violence envers les intervenants, l'infirmière, tu sais, elle dit « Ouais, c'est un peu utopique de croire que d'afficher une pancarte va empêcher les gens d'être violents à notre égard. » Je sais pas.
Ça a jamais empêché un moron d'être moron d'un aréna, hein, qui a des affiches.
On a donné 250 000 $ pour faire des affiches. On a fait quelque chose. Le CHU procède présentement à la mise en œuvre de travaux de rehaussement des infrastructures du secteur pour améliorer la sécurité, notamment au niveau de la salle d'attente. Et là, l'infirmière dit, c'est comme de mettre un plaster sur le bobo, et même pas sur le bobo, juste à côté. Donc, visiblement, les infirmières et les infirmiers des hôpitaux sont inquiets par rapport à leur sécurité, surtout dans les ailes psychiatriques. Là.
Drôle de son de cloche à ce stade-ci où tu as un contexte, justement, qui est facilement explicable. Avec les chiffres, avec les statistiques, avec tout ce que ça prend, il y a plus de gens agressifs en plus de tous les autres problèmes dans les hôpitaux.
Ouais.
Puis Denis, t'enlèves le backup.
Denis, ta blonde est enceinte.
Ouais.
De trois semaines.
Mm.
Elle est infirmière. Tu l'envoies-tu travailler pareil sous son chiffre le temps qu'elle ait son congé maternité?
Je vais travailler fort pour qu'elle travaille pas. Je filerai pas bien.
Tu vas travailler plus fort ici? Elle peut-tu tomber enceinte?
Non, il y a toujours bien des limites. Là. Non, elle peut plus en passant. J'ai fermé ça. Là. La shop est fermée.
Elle était facile.
C'est vrai?
Ben oui.
L'opération est faite.
Ben oui, depuis plusieurs années.
C'est vrai que ça sent drôle?
Oui, ben ça sent le brûlé, ça sent le...
Le cochon?
Comment ça s'appelait?
Cochon brûlé?
Oui, ben, un petit peu, mais j'avais pas faim, là. Non. J'avais surtout hâte que ça finisse. J'ai pas aimé ça.
Puis ils t'ont-tu badigeonné avant?
Ah oui, ils font tout ça, là. Oh, oui, l'infirmière.
Mais ça prend pas de tête.
En parlant du beau temps.
Fait que t'as les pieds dans les étaux, puis ouais. Ils badigeonnent ça.
Oh, oui, puis t'essayes d'avoir une conversation en faisant semblant qu'il se passe autre chose. Là,
ben, vous irez, vous autres, le gynécologue à chaque année.
Ouais,
avec
ça
les
vous autres. Ouais, vous autres, c'est pire que nous autres.
Ils mettent les deux pieds dans les étaux, puis qu'ils disent rapproche-toi, détends-toi.
Benoît Charrette, qui a sa grosse face dans le Journal de Québec aujourd'hui, le beau gros sourire, il est à côté d'un véhicule électrique avec une borne électrique.
Tout se fait haïr!
On parle de l'interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs en 2035 au Québec. Il dit « Ça va être difficile de se trouver de l'essence! » Ça a l'air qu'il y a des stations-service qui ferment à n'en plus finir, selon le ministre Benoît Charrette. On s'en va dans un mur, puis... T'sais, on le sait pourquoi ils font ça, là. C'est qu'ils te stressent le plus possible pour que tu procèdes à un autre achat que tu pensais faire, c'est-à-dire ne pas t'acheter un véhicule à essence, puis tu y ailles un peu plus vers le hybride ou avec leur tout au électrique. Mais Denis, il nous cite en exemple la Norvège. Puis en passant, le Journal de Québec, ils ont fait un dossier complet là, sur la Norvège, ouais. Sans mentionner que la Norvège est devenue riche en raison de son pétrole. La Norvège consomme... exporte sept fois plus qu'elle consomme. Excuse-moi, ouais. Je cherchais la statistique dans ma tête. Mm-hmm. Mais la Norvège exporte sept fois plus qu'elle consomme. Puis avec tout cet argent-là, ils ont passé au tout électrique. Mais nous, c'est pas ça, là.
Les gens vont passer au tout électrique quand ça va être le plus simple, quand ça va être le plus abordable et quand ça va être le plus efficace. C'est pas un ministre avec un beau sourire. On n'est pas aux États-Unis. Ça me fait rire quand on essaye de faire du Donald Trump au Québec. On n'a pas la colonne vertébrale, on n'a pas la force. On est des ticounes dans l'échiquier de la business internationale. Si on est tout seul dans cette cavale-là, il n'y arrivera rien. D'ici 2035, la CAQ a le temps de se faire laver puis de revenir au pouvoir avec un autre ministre. Ouais.
Mais ils vont revenir sur cette date-là. Là. Mais du jour au lendemain, on est au tout électrique. Là. Qu'est-ce qui se passe avec les taxes, nous autres, qu'on paye sur l'essence?
Ben, c'est de l'argent de ramasser de moins, hein?
OK, on la prend où, cet argent-là?
Ben, on va aller la chercher autrement. On va trouver une façon. Fais-toi-en pas. Stresse-toi pas avec ça. Des façons d'aller chercher de l'argent, ils vont toujours en trouver.
Il y a beaucoup de gens qui commentent en ce moment. Faut pas oublier que la Norvège n'oblige personne à faire cette transition.
Exact.
C'est ce que Denis a mentionné. Est-ce que... OK, donc, ils seront plus capables de prélever le nombre de taxes qui prévalent sur chaque litre de...
Qui prennent sur chaque litre d'essence.
On y va, c'est lundi. Donc, ils sont plus capables de le faire. Donc, nécessairement, ils vont le prendre sur les tarifs d'électricité, Denis.
Entre autres.
Parfait.
Ouais.
Fait que le matin, à heure de pointe, toi, tu vas aller, mettons que tu as besoin d'électricité, tu vas aller à la borne la plus proche.
Vraisemblablement.
Si tu consommes cette électricité-là à heure de pointe, ça va-tu être plus cher? Ça va-tu être une tarification qu'on appelle dynamique?
Ils peuvent tout faire rendu là. Puis même le prix de l'essence, là, je m'excuse, mais si t'as moins d'essence, t'as moins de stations d'essence, l'offre et la demande, ça fait quoi? Si t'en as moins, mais que la demande y est, parce qu'il y a encore des gens qui vont avoir des voitures à essence, ouais. Là, ou des machineries, ou ben, ça va faire monter le prix.
Il va y avoir une tarification dynamique, tout dépendant de quand est-ce que tu prends l'électricité, et tu vas avoir une taxe kilométrique.
Oui, sûrement.
Donc, plus tu roules avec ton véhicule électrique, plus tu consommes de l'essence, plus ça va te coûter cher d'électricité, mais ça va te coûter cher aussi de kilométrage.
Ça, c'est des affaires de bourgeois qui n'ont jamais mis les pieds ou qui ont oublié qu'ils ont déjà mis les pieds dans une région rurale du Québec. Faut vraiment pas comprendre la réalité des régions pour penser qu'en 2035, on a le luxe de se passer des véhicules à essence puis d'arrêter d'en vendre. Ça, c'est des lubies montréalaises de gens qui n'ont jamais passé les ponts. La réalité au quotidien de gens qui vivent en région fait en sorte que tu pourras pas, quand même que tu l'obliges, tu pourras pas.
On a de la misère. Impossible. En 2024, on a de la misère à fournir tout le monde en électricité, puis le réseau d'automobiles électriques n'est pas à son plein.
Vous allez voir, on a de la misère à trouver un poste de gaz. Hey!
Ça prend combien d'années bâtir un barrage? Ce que j'ai vu, c'est 10 ans.
Ouais, puis on va pas s'améliorer là-dessus. On travaille de moins en moins, on demande de plus en plus cher. Fait que les délais, les dépassements de budget et ainsi de suite.
Donc, de bâtir un barrage, c'est 10 ans.
Au moins.
OK, on oublie le barrage. Les parcs éoliens, on peut continuer de mettre des virevents un peu partout. Ça prend du vent.
On n'aura jamais assez.
Puis il reste quoi comme source d'énergie qu'on peut aller chercher?
C'est des dates utopiques pour faire beau. Et même avec son plus beau sourire en une du Journal de Québec, il se croit pas lui-même.
Non.
Convaincu.
Puis, la bonne nouvelle, c'est que dans son comté, s'il y a des élections demain matin, il perd sa job. J'imagine qu'il va perdre le sourire aussi. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Mais moi, je me pose une multitude de questions. L'Île des Sœurs, tu as déjà été sur l'Île des Sœurs. Ah, c'est oui? Des condos à n'en plus finir. Mm-hmm. C'est des voitures à n'en plus finir. Puis le système électrique n'est pas fait pour accueillir tout ce beau parc automobile-là.
Il y a plein d'impossibilités si tu te mets à y réfléchir un peu. C'est pour ça que nous autres, on sait que ça n'arrivera jamais. Ou ça n'arrivera pas comme ça. Ça va arriver quand les gens vont être rendus là. Comment on est passé au CD? Est-ce qu'un gouvernement nous a obligés d'arrêter de vendre des disques vinyles pour passer aux disques compacts?
C'est l'industrie qui s'est adaptée.
L'industrie s'est adaptée, puis le consommateur, à un moment donné, a trouvé plus d'avantages aux disques compacts. C'est le consommateur qui a le dernier mot, Yann. Puis ça va être le consommateur qui va décider quand est-ce qu'on va au niveau de l'électrique. C'est le consommateur qui va choisir la date. Puis ça va avec les technologies, ça va avec l'abordable. Il faut que ça devienne économique d'une façon ou d'une autre. Nous autres, là, on va toujours y aller par la voie la plus simple et la moins compliquée. On a des vies compliquées, on a des horaires compliqués, on a des exigences compliquées. On va y aller au plus simple. Quand avoir un véhicule électrique, ça va être le plus simple au Québec, on va tout en avoir. Pas compliqué.
Moi, j'ai juste peur qu'ils commencent à décourager des gens puis à faire en sorte qu'il y a des gens qui s'opposent à ce virage-là, qu'on va devoir prendre un moment ou à un autre puis commencer à faire un engrenage parce qu'ils n'arrêtent pas de le faire en enfonçant ça dans la gorge.
C'est fendant
un peu.
Mais
en n'étant même pas eux-mêmes prêts puis en faisant des genres d'articles de journaux comme on voit en ce moment avec des déclarations qui font plus peur que d'autres choses.
Ou qui enragent.
Qui peuvent stresser des agriculteurs aussi qui ont besoin de cette essence-là, qui vont avoir de la misère à le trouver, qui ont besoin de garder leur machinerie à des milliers de dollars. Puis c'est leur seule façon de s'assurer un futur,
très
soit ce qu'ils possèdent physiquement sur leur terre. Puis ils vont peut-être dire, ces agriculteurs-là, ben fuck off, moi, mettez des éoliennes sur mon terrain, puis qu'après ça, ils ne peuvent plus cultiver ces lots-là pour certains, parce que ça va revenir bien mieux dans mes finances si vous en posez, mais que nous, on va avoir une perte intéressante au niveau de l'agriculture aussi au Québec. Il y a des choses qui... Je trouve que c'est tellement mal géré, puis c'est géré à ce qu'on s'en écœure, même si on était pour au départ. Puis ça, je trouve que de plus en plus au provincial, au fédéral, c'est comme une façon de gérer en politique qui met personne derrière eux, bien au contraire, qui fait en sorte que les gens sont répulsés de ces idées-là, qui devrait être intéressante, tripante, puis de voir l'évolution, la modernité à travers le monde, puis ceux qui l'instaurent, puis qu'on souhaite que ça arrive.
La tondeuse? Tu vas faire quoi avec ta tondeuse, Denis? Ton fouet? Tu vas faire quoi avec ton fouet? Tout au électrique, maintenant?
Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Moi, ça me fait rire, je le dis depuis le début, je ne crois pas cette date-là, puis ce n'est pas un ministre de la CAQ qui va être lavé aux prochaines élections qui va instaurer la date de changement. Je vais reprendre mon exemple. Trump peut faire de la politique de gros bras. Il est président des États-Unis d'Amérique. Il peut faire changer des choses à son profit en étant fendant puis baveux. Ça marche. C'est le président des États-Unis. On est au Québec. Si on ne fait pas tout ça ensemble, en Amérique du Nord en même temps, le monde va rire de nous autres et ça ne fera pas un grain de différence au final. Puis est-ce qu'on a le luxe de ruiner économiquement le Québec pour respecter un beau deadline environnemental? La réponse, c'est non. Quoique, parti comme c'est là, avec Nordvolt, avec Lyon, on va peut-être réussir à ruiner le Québec avant 2035.
Nordvolt, Lyon, Taïga.
Hey, il y a un cadenas dans la porte, Lyon, à matin.
Toute la filière électrique, c'est une catastrophe. On a investi l'argent des Québécois là-dedans. Mm-hmm. Après ça, t'as Benoît Charest qui a le beau gros sourire en disant 2035, on y va, tout au électrique. Les stations-service vont fermer. Mais ils t'amènent pas de solution. Par exemple, le nucléaire en serait une. Le nouveau nucléaire en serait une solution. Là. T'as pas besoin de bâtir quelque chose de gros. C'est une petite boîte qui ressemble à peu près à, mettons, à une remorque de 45 pieds là, qu'on croise sur l'autoroute. Puis t'as une centrale nucléaire là-dedans. Et c'est la façon la plus verte à la grandeur de la planète de produire de l'électricité en 2024. Mais ça, au Québec, les gens sont pas prêts à rembarquer dans le nucléaire, alors qu'ils l'utilisent partout. T'as la Chine, là, qui est pas regardable, là, qui sont au charbon. Là. Mm-hmm. Ben, eux, ils veulent commencer à revenir au nucléaire d'antan.
On prépare l'avenir environnemental en investissant notre argent collectif dans des compagnies qui, une par une, font faillite. Moi, c'est drôle. Je sourirais pas en une d'un grand journal dans le contexte actuel. Je me garderais une petite micro-gêne de rien du tout.
C'est un très mauvais calcul, mais je pense qu'il est en politique pour lui et non pour ses citoyens.
Je trouve qu'il faisait codaire. C'est vraiment pas un compliment en passant. Là. Je trouve qu'il faisait codaire sur sa photo un matin. Hey les gars, vous allez voir qu'on va avoir de la misère à trouver du gaz, les gars. Des vendeurs de vin, là, il y en a assez qui vous ont fourré au gouvernement. Commencez pas à faire ça avec nous autres, OK?
OK. Comment, Denis, je peux lire dans le Journal de Québec? Nouveau record, près de 9200 profs non légalement qualifiés dans les écoles du Québec. Puis ensuite, une coche plus bas, je vois une fille qui a son permis d'enseigner, qui a 20 ans d'expérience, elle a un doctorat en sciences de l'éducation, puis elle se fait dire non par tout le monde pour être embauchée dans une école secondaire, exemple, parce qu'elle est surqualifiée.
Depuis 2018, elle a déposé son CV et elle appelle désespérément pour avoir une job, et on lui a répondu qu'elle était surqualifiée pour enseigner au secondaire.
Ouais. Le système ne veut plus de moi, fait que qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va aller dans les écoles privées, tout simplement, parce qu'il y a de la demande pour ce type de professeur.
Ouais, mais on n'a pas de problème. On a rien que 10 000 qui sont pas qualifiés pour enseigner à nos enfants. On n'a pas de problème.
Elle a dit, il se force même pas pour essayer de les recruter. Là. Elle a envoyé son CV, pas eu de réponse. Quand elle a décidé de les rappeler, ils ont dit, madame, vous êtes surqualifiée.
C'est ridicule.
C'est d'un ridicule. Puis c'est nous qui payons pour ça. On n'a pas accès à cet employé-là.
On permet à des gens pas qualifiés de faire la job ou qui n'ont pas la qualification nécessaire de faire la job. Et pendant ce temps-là, une personne trop qualifiée pour faire la job... Moi, c'est drôle, hein? J'ai une personne trop qualifiée qui a vu la job. Je ne sais pas pourquoi, là, être propriétaire d'une entreprise. J'aurais tendance à y donner. Moi.
Puis dans les non-qualifiés, à un moment donné, notre collègue Catherine Bachan avait tenté, elle, de donner des cours de français puis d'aller aider, tu sais.
Ouais.
Puis elle fait dit, genre, tu trouves pas tes revenus de notes de secondaire 1 ou 2? Là, j'exagère avec le 1 ou 2, mais tu trouves pas tes revenus de notes de secondaire? On peut pas te prendre.
Mais voyons.
Elle avait cégep, université de mémoire. Il y avait vraiment quelque chose d'épais, là. Ça continue.
C'est faire exprès pour créer des situations problématiques parce qu'on veut pas changer les façons de faire. Et il y a un étage au-dessus des professeurs où il y a énormément de gens qui compliquent énormément les choses simples. Parce que s'ils font pas ça, ils ont pas grand-chose à faire de leur journée.
Ils ont-tu du fun? Hey, yes! Moi, je n'ai retourné une. Moi, là, que j'aurais du mal à vivre. Colline, que je trouverais que ma job fait pitié. Puis ouais.
Tu souviens-tu de tout ce que tu as appris, toi, secondaire 1, secondaire 2?
Eh, pareil, non.
T'sais, moi, mon gars, il a 11 ans, mon plus vieux, puis il m'a dit: papa, il va falloir que tu m'aides avec le théorème de Pythagore.
Ça commence, là, hein?
Là, je suis dans le char, là, je fais semblant, j'essaie de pas cligner des yeux quand il me dit théorème de Pythagore, puis je me dis: oh, bonne chance que ChatGPT est là, mon homme.
T'as fait semblant.
C'est à partir de quelle année hein, que l'aide aux devoirs, c'est nous autres qui en a plus besoin que le kid? Hein? Secondaire 1 secondaire 2 à peu près?
Mais, une fois que tu reviens dans la matière, t'es capable de faire ton bout, là, mais théorème de Pythagore, là, je sais que je suis peut-être différent des autres, Pascal saurait te le dire, mais je ne l'ai jamais réutilisé nulle part.
il y a ben des affaires que j'ai jamais réutilisées nulle part.
Le tableau de chimie qu'on avait à apprendre par cœur.
Hey, l'algèbre.
Ah, c'était le fun, ça, par exemple. Je m'excuse, j'aurais pas dit.
Le fun, mais utile, tu sais?
Ouais, ça dépend pour quel métier tu vas
c'est
faire.
C'est ça, là, Denis, nous autres, on n'est pas un exemple.
La démarche, tu sais, faire
on
la démarche...
On a même des fautes de français, puis on devrait au moins être meilleur.
Faire la démarche de l'algèbre, c'est intéressant, mais t'as raison, tu sais, la plupart d'entre nous n'allons jamais l'utiliser, cette putain d'algèbre-là. Hey, je voudrais m'excuser, Denis.
À qui? Il y a une liste, quand même.
À Denis Gravel.
À moi, personnellement?
Oui.
OK.
Pour la performance de mon Canadien hier.
Ah non, non, hey, excuse-toi pas, on en avait besoin.
Face aux Bruins de Boston.
Hey, allez voir la vidéo que j'ai partagée sur mon Facebook pour le centenaire des Bruins. Simple et tellement efficace. C'est un drone qui se promène dans l'aréna et à l'extérieur de l'aréna du TD Garden et partout où il s'arrête. Il y a une légende des Bruins qui est en train de faire quelque chose. Moi, je les connais pas toutes de face, là, mais tu les vois toutes passer d'une façon ou d'une autre. On a dévoilé la statue de l'ours, où maintenant on demande aux gens un nouveau rituel. On va frotter la patte pour avoir un petit peu de chance avant une game. Donc, ils ont inauguré ça en fin de semaine. Et clairement, pour le premier match du centenaire, ça a fonctionné. On a réglé le cas du Canadien en 1 minute 10. Et les Bruins ont scoré plus de buts contre le Canadien que dans leur dernière semaine d'activité au total.
Je ne sais pas ce qui va se passer. On a un problème visiblement de gardien à la défensive. On a un problème de confiance. Puis à l'attaque, il y a quelques joueurs qui fonctionnent bien. Les autres font juste patiner. C'est une catastrophe, le Canadien, cette année. Puis on a beau nous parler de reconstruction. Moi, ça fait depuis les années mi-90 qu'on me parle de construction, reconstruction, qu'on va peut-être faire les séries. On va peut-être faire ci. Là, un moment donné, cette année, ils nous ont dit « on va faire le mix ». Je m'en vais dans le dictionnaire, le mix.
Le mix.
Puis là, tout le monde est parti sur le mix.
Au moins, ils font quelque chose, ça que tu disais.
Parti comme c'est là, Crave va pouvoir présenter une 10e saison de la reconstruction du Canadien.
Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable.
La reconstruction, saison 10.
Je voulais vous poser une question. Je ne sais pas si Pascal t'a vu les images, mais quand il y a eu la fameuse cérémonie avec les Bruins de Boston sur leur 100 ans. L'homme qui est arrivé, dernier marqueur, un des derniers marqueurs de 50 buts, je sais pas si tu l'as vu passer, il était avec sa marchette.
Ah, c'est pas O'Reilly, ça?
C'est-tu encore représentatif, ça, pour les jeunes de 20, 25 ans qui le voient arriver?
Tu veux dire?
Tu sais, de se dire... Parce que moi, quand je vois Jean Béliveau, je l'ai jamais vu jouer.
C'était Biosic, hein? C'était-tu Johnny Biosic?
Ça se peut.
Ouais. Les gens disent que oui.
Ouais, hein, c'est ça, Biosic. Biosic.
Bon, quand j'ai vu Jean Béliveau, il représentait le Canadien de Montréal. Mmh. C'était un ancien, un homme extrêmement respecté, mais je ne l'ai jamais vu jouer.
Ouais.
Est-ce que les jeunes qui sont dans le show aujourd'hui, qui voient un monsieur de 85 ans arriver en marchette, ça veut encore dire quelque chose pour eux? Parce que pour les Canadiens, visiblement pas. Là, quand il y a eu... tous les anciens du Canadien se sont fait rosser là, au Centre Bell.
Les Bruins travaillent beaucoup là-dessus. De ce que j'ai vu, parce que tu as une série de télé-réalités qui existe depuis plusieurs années déjà, Behind de billes. Puis les anciens, ils vont beaucoup dans le vestiaire. Avant les games, jaser, puis tout ça. Puis le lien facile à faire, étant donné que c'est encore des légendes des Bruins qui dirigent les Bruins de Boston. T'sais, on pense ce qu'on veut de la qualité de Cam Neely depuis qu'il a le poste, mais c'est quand même quelqu'un qui est important. Patrice Bergeron était là encore hier. Je pense que la structure des Bruins fait en sorte que les anciens et les vétérans veulent dire quelque chose. En même temps, puis Pierre Houde l'a bien mentionné hier, c'est dans les années de guerre mondiale où les Bruins auraient probablement gagné leur lot de Coupe Stanley, mais toute leur première ligne est allée au front. Donc, pendant quelques années, les Coupes Stanley des Bruins n'ont pas été gagnées. Ouais. Leur premier trio se battait pour quelque chose de pas mal plus important.
Je reviens à ma question. Ouais. Est-ce que quand on voit un monsieur de 85 ans en marchette, on reconnaît, quand on a 20 ans, les efforts que ce gars-là a mis puis l'importance de jouer pour les Bruins de Boston. Parce que longtemps, quand on regardait Béliveau ou quand on regardait le Rocket, on disait « Tabouah, ces gars-là ont joué pour le Canadien, ils sont encore là, ils viennent nous encourager. » Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour les joueurs du Canadien, les légendes, ça c'est juste des gars qui ont déjà fait le club. Là.
Ils ont peut-être trop utilisé les légendes au niveau public avec le Canadien de Montréal des années où il n'y avait pas nécessairement d'enjeu pour se rendre à la Coupe Stanley. Puis tu sais, tu clashes la gloire des anciens avec leurs 24 Coupes Stanley à une équipe qui n'a pas vraiment de direction. Puis là, je fais exception des deux dernières années. Là, on commence à avoir des joueurs qui ont de l'allure, des jeunes qui ont du talent, puis ainsi de suite. Mais t'as un club actuel qui n'a pas de direction, puis tu te rappelles que ça a déjà été glorieux, que ça a déjà été extraordinaire. Puis pour ce qui est du point de vue du joueur, ben je sais pas. Moi, le jour du souvenir, ça me fait toujours quelque chose, tu sais, de voir des vétérans qui ont vécu des affaires, puis qui l'ont eu plus rough que nous autres. On ne l'aura jamais, tu sais. Puis je me dis qu'au niveau hockey, ça peut peut-être avoir le même rôle ou le même impact de dire « Hey, l'uniforme que t'as sur le dos, là, ça fait 100 ans que du monde le porte, tu sais. Puis le premier noir qui a joué au hockey, il a porté ton uniforme, tu sais. Il y a des gens qui ont arrêté de porter ton uniforme parce qu'ils sont allés se battre à la Deuxième Guerre mondiale. Lui, là, il a porté ton uniforme, il snappait de la rouge, puis il passait à travers Patrick Roy.
Avec un bâton de bois bien rigide, une palette droite.
Il y a plein d'affaires. Moi, ça me touche. Je pense que ça me toucherait si j'étais un jeune joueur.
Mais on n'a peut-être pas été élevé pareil comme cette génération-là.
Oui, peut-être 19, aussi.
19, 20 ans là, d'aujourd'hui, je sais pas.
On a grandi dans le vieux hockey.
Hey, on a peut-être une réponse parce que on vous parlait des articles là, du Journal de Québec. Là, nouveau record, près de 9200 profs non légalement qualifiés dans les écoles du Québec versus cette dame-là qui a un doctorat, qui a 20 ans d'expérience, qui veut être professeur au secondaire. Puis on lui dit non, vous êtes surqualifié. Il y a Pierre-Louis qui nous écrit. Il dit c'est niaiseux, mais plus tu as des études, plus tu es payé cher. Parce que la personne qui commence plus haut va être au dernier échelon, tandis que les non-qualifiés commencent à l'échelon 1. Avec, exemple, je me sens que c'est autour de 40 000 $ là. Si, mettons 50 000, tiens, pour être plus précis. On dit 50 000, mais si tu as 50 % des tâches au secondaire, c'est 25 000 que tu vas avoir. Tandis que si on prend cette dame-là, qui a un doctorat, il apprendrait au dernier échelon, donc il devrait être payé plus cher.
Fait qu'on est rendu là, le cheap labor dans les écoles du Québec?
C'est que probablement qu'il y a une histoire de syndicat derrière aussi, parce que si elle est au dernier échelon, il faudrait que tu lui donnes une tâche pleine aussi.
Tout va bien.
On espère vraiment que ça soit pas ça, parce qu'après, tu peux pas plaider que tu es là pour ta jeunesse.
Pierre-Louis dit, j'ai justement mon brevet d'enseignant et je décide d'y retourner. Je commence minimum au 5e échelon à cause de ça et de mon ancienneté dans le système.
Hey, c'est ridicule.
Fait que ça se peut que ce soit une histoire de syndicat versus le salaire
qu'on va
lui payer.
Mais c'est pas ça qu'on
lui
a dit à cette femme-là non plus.
Non, c'est pas
là.
Ça. En même temps, ils font-tu vraiment y expliquer tout ça? Je suis pas sûr. Merci beaucoup, Denis. On t'écoute dans le retour tantôt.
Bye-bye. Marceau